cadeau, vous avez dit Morgane Casimir, oui. Antoine Villa, Alexis Rossignol, Tanguy, Massuro, Daniel Morin.
Bonjour Morgane.
Et notre invité aujourd'hui, Nicolas Briançon.
Oh, bravo.
Alors, nous allons...
Ça fait longtemps qu'on n'a pas reçu Nicolas Briançon.
Ça fait une semaine ou deux, non, je pense. Comme ça.
Ouais, non, ouais. Ça fait pile un an.
Mais c'est toujours un plaisir. Je pense.
Ouais, c'est... ouais, il est trop classe.
Mais je crois que ça fait pile un an.
Tu prends des notes, ouais. Tu fais des stats.
Bah, non, elle a reçu une note de la SACEM.
Travail.
Une pièce intelligente, a dit le Figaro Magazine. Un enchantement, a dit le Canard Enchaîné. Bref, Jacques et son maître. C'est une pièce de Milan Kundera à partir de Diderot.
Le texte
de Diderot,
c'est ça.
Mise en scène par Nicolas Briançon avec Stéphane Hillel, avec Lisa Martineau, Pierre-Alain Leleu, Camille Favrebulle. On va parler avec lui, évidemment, avec Nicolas Briançon et de sa mise en scène, ouais, et de son interprétation dans quelques instants. Mais d'abord, jouons les camarades.
Daniel ?
Oui.
Jean ?
Oui, mais quel Jean ?
Jacques Jean.
Bah oui, parce qu'il peut y avoir Arthur, il peut y avoir Isia.
Ouais, Jean-Pierre aussi.
C'est Jean-Pierre. Jean-Pierre.
Aussi.
Jacques.
Ouais.
Jacques.
Vous cherchez tous les Jacques là-bas.
Jacques.
Bah ouais, Jacques, évidemment. Jacques est son maître.
Tom.
Morgan.
Ouais, Tom.
Maître Gims.
Bah oui.
Ah, maître.
Ah, Jacques Gims.
Ouais, ouais, je crois que c'est Jacques. Tu me dis waouh.
C'est son huitième prénom.
C'est chaud. Pourquoi faire compliqué ça encore? Pourquoi faire compliqué?
Bien vu, Tom.
Bah ouais. Il y a du maître, il y a du Jacques.
Daniel.
Dutronc. Ah, ça va.
Daniel.
Mais non, mais Dutronc.
Ah non, Daniel.
Non, non.
Daniel.
Ah, Rogi.
Pour lui faire plaisir.
Ah, on dit Tom. Ok, Tom. Le titre, moi, alors.
Tom.
Ah, bah, les.
Merde, c'est pas les Playboys, Daniel.
Les Playboys.
Oh, salaud.
Non,
mais je redonne le point.
Non,
il n'y a pas de ça. Gamelle, allez, demi.
On joue Baby. Allez, c'est parti. Qui chante ça?
Tanguy.
Ouais, Tanguy.
Stevie Wonder.
Yes.
Et pour.
Master.
Oh, Blaster.
Oh oui, même en anglais.
Stevie Jack.
Et il est bilingue en plus. Master Blaster. Non.
Ouais.
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 On peut la laisser un peu.
Bon, mais c'est ce que je fais.
Et en quoi on va mettre Bella.
Bella.
Non.
Tu peux jouer, Alexis.
Ouais, je sais, ouais.
Merci. Morgan Drake.
Non.
Dark Vador.
Non. Ah, s'il y a l'idée, ouais.
Hein.
Non, c'est une petite piste.
Non.
Morgan.
Ouais.
Booba.
Ouais, Booba. Maître Yoda.
Ah ouais.
Yoda. Je connaissais pas Yoda
avec Booba.
Ah ouais.
Vous êtes bien sur Inter.
Allez.
Vous faites assez bien.
Qui chante ça?
C'est pas Booba. Hein.
Leïla ?
Ouais.
Frère Jacques ?
Non.
Tanguy, au hasard, les specials, mais non.
J'écoute.
Daniel.
Daniel.
Ah oui. François.
Bah oui.
Ah d'accord.
Mais j'adore, c'est vrai, bah ouais. T'as raison, c'est ska.
Il y avait un côté ska.
C'est quoi la chanson ?
Ouais.
On est d'accord, ça,
c'est Claude François. Jacques Addy.
Jacques Addy.
Jacques Addy.
On connaît pas cette chanson.
C'est dommage.
Eh oui.
On joue. Je sens qu'on est passé à côté de quelque chose.
Ouais. S'ennuyez pas trop pour certaines chansons quand même.
Daniel a 2 points, Tom a 2 points, 1 point pour Morgan, 1 point pour Tanguy. Tout se joue maintenant.
Daniel. Oh, Dépêche Mode.
Bah évidemment.
Master and Servant.
Master and Servant.
Génération
ce qui, va, oui. Ce qui va très bien avec Jacques et son maître, pardon. Hein.
C'est super.
Cache ta joie, Boudadi.
Là, j'avoue.
Bravo, Daniel.
Jacques et son maître.
Mais c'est très bien. Réjouissons-nous pour Daniel. Daniel est là.
Mais pas trop,
et parlons
trop
de cette pièce. Je pense que j'ai plus de choses à dire sur la pièce que sur ce blind
genre
test.
Moi.
Je passe des heures à préparer ce blind test. Et là, rien de
fou. Non, c'était super, super ce blind fou. Test. Il y en avait pour
ça.
Tout le monde.
C'est ça. Merci d'accueillir Nicolas Briançon.
Oui. Merci. Avec Nagui.
Jacques et son maître, alors c'est pas une adaptation, c'est une variation à partir du texte de Diderot. On n'en garde pas moins la notion philosophique de la fatalité ou du destin, puisque c'est écrit là-haut. C'est souvent dit. Je sais pas si c'est la phrase précise, c'est écrit là-haut, mais enfin, il y a une notion de destin et de fatalité.
Ça revient en forme pendant le texte. C'est ça. Le c'est écrit là-haut.
Et là-haut, c'est pas n'importe qui là-haut.
Là-haut, c'est un peu ce qu'on veut y mettre aussi. Hein, ça peut être.
C'est le grenier généralement. Hein, c'est
Il y a un grenier aussi.
Ça peut être la figure de l'auteur, quoi.
C'est d'ailleurs puissante. dans la pièce la figure de l'auteur. C'est-à-dire que dans le roman de Diderot, c'est l'auteur qui commente. C'est Diderot qui commente en permanence la vie de ses personnages dans son roman. Mm-hmm. Par exemple,
mise en abîme.
Il dialogue entre Jacques et son maître, et puis tout d'un coup, Diderot écrit, laissons nos deux acolytes discuter, il se fait tard, allons-nous coucher. Et puis il commence son chapitre juste derrière en disant nous ne saurons jamais ce que se sont racontés Jacques et son maître hier soir. Voilà, mais c'est ce qui est merveilleux dans le roman de Diderot, c'est que c'est écrit avec d'une modernité incroyable. Il a dynamité le roman, la forme du roman. Ouais. C'est ce que d'ailleurs, c'est d'où la passion que Kundera a pour ce texte-là, à cause de l'extraordinaire liberté qui anime le roman de Diderot.
Alors qu'est-ce qui vous animez à l'adapter, à la mettre en scène et à l'interpréter?
Moi, presque un rendez-vous avec mon enfance, enfin mon adolescence.
J'ai dit avec votre psy, quand même pas.
Mais non, j'en ai pas fait encore, mais je désespère pas, ça viendra sûrement.
Vous faites tous les soirs.
Est-ce qu'un acteur a besoin d'aller voir un psy ou juste jouer?
Oh, je pense que certains ont besoin d'aller voir des psys. D'ailleurs, certains ne s'en privent pas. Ouais.
Et d'autres devraient. Hein.
D'autres devraient faire sans doute. Et d'autres n'en éprouvent pas le besoin. Chacun fait comme il
veut. Revenons à son
rôle. En gros, c'est une pièce dont j'ai vu la création.
On va commencer à digresser un peu.
Quand j'avais 19 ans.
Et on ne saura jamais ce qu'il voulait dire.
Ouais. Donc j'avais 19 ans et j'ai vu la création de cette pièce. On est au tout début des années 80. Kundera vient d'arriver en France. Je crois qu'un des premiers actes de Mitterrand, c'est la naturalisation française de Kundera. Et se joue à ce moment-là une pièce qu'il a écrite en 71 qui est Jacques et son maître et qui se joue au Théâtre des Mathurins. Et je vais voir cette pièce, je commence à avoir l'idée que peut-être j'aimerais faire ce métier-là, et j'achète le texte en sortant de la pièce. Je suis fasciné par Jean-Michel Dupuis qui joue Jacques et qui était absolument merveilleux, et j'achète le texte et dans ma chambre, dans mon studio, je me joue des passages entiers. Oui,
mais
bien sûr.
Génial.
Et quand des années ont passé, j'ai commencé à faire ce métier, et puis je me suis retrouvé dans des propositions comme on le fait au début de sa carrière. De temps en temps on choisit, puis de temps en temps on choisit pas, de temps en temps on assume et de temps en temps on assume moins. Bref, je suis sorti d'un spectacle qui s'appelait Les Années Twist j'assume absolument et qui m'a
Roger Louret,
surtout quand j'en suis sorti de redonner l'envie de retrouver des textes et de refaire du théâtre.
Et apporter une autorité.
Et Roger Louret a produit le premier Jacques et son maître que j'ai monté il y a 21 ans, grâce au man des années Twist.
D'accord.
Donc il y a une morale dans tout. Ouais. J'ai monté ce premier Jacques avec une bande de copains, d'abord dans le sud-ouest, là-bas, dans un petit théâtre de poche, on jouait le premier acte. C'est le café du village avait son théâtre dans le café, donc je jouais le premier acte de Jacques dans la salle de théâtre, puis le deuxième acte dans le café au milieu des gens.
Génial.
Puis le troisième acte
dehors.
Je raconte tout ça parce que ça a donné d'une certaine façon l'esprit du
ce que j'allais dire, et de la mise en scène aussi, puisqu'on on passe justement du grenier à la taverne.
Absolument. Très vite, parce que c'est des lieux. Bon. Et après on est parti en tournée d'été sur des places de village, et puis après on l'a fait à Paris, et puis après voilà.
Quand vous dites qu'il y a une morale à tout, est-ce qu'il y en a une justement dans ce texte, dans cette pièce? Parce qu'il y a beaucoup de clins d'œil comme ça et de morale.
Je crois que Kundera est trop intelligent pour asséner une morale qui serait une morale définitive.
C'est pour ça qu'il y en a autant. Il y en a plusieurs.
Il y en a plein, oui. Ouais. Il y a cette fin qui résume presque tout de nos vies, je trouve, quand il dit que c'est à vous de me conduire maintenant, dit Jacques au maître, et vous allez me conduire où? En avant. Avant, c'est où? Je vais vous révéler un grand secret, une astuce immémoriale de l'humanité. En avant, c'est n'importe où. Que vous regardiez n'importe où, partout, c'est en avant. Voilà. Et cette idée-là, cette idée d'avancer, quoi qu'il arrive, et quelles que soient nos vies, Elle est toute simple, mais elle est très euphorisante.
Mmh. Alors c'est la fin, et justement le début, c'est la boucle est bouclée, puisque le début, ils sont en train d'avancer, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas où ils vont. Il y a un rapport entre le maître et son serviteur qui est
un peu inversé.
En ballotage, et voilà,
oui,
c'est ça,
et
exactement.
Puis une dépendance, surtout de l'un et de l'autre.
Ouais. Et puis on a le sentiment au début que celui qui est au service distrait l'autre en lui racontant ses prouesses, en lui décrivant des femmes, comme pour le maintenir en éveil ou lui faire revivre des rêves. Et il y a un manque total de respect entre les deux. Mais là, il faut se resituer aussi dans l'écriture de l'époque aussi, la moquerie que peuvent avoir les dans l'échelle sociale les uns par rapport aux autres. Parce qu'il y a un rapport aussi et de force et de dominant-dominé qui s'installe aussi entre les deux.
Le dominant-dominé n'est pas toujours celui qu'on
imagine.
Ouais.
Par la parole, justement, par le récit. Celui qui tient le récit, c'est celui qui a le pouvoir, finalement. Et c'est votre personnage, c'est Jacques.
Oui.
C'est Jacques
qui fait un récit dont il ne se finit jamais, d'ailleurs.
Oui. Mais c'est ça aussi la difficulté de la mise en scène. Moi, j'ai trouvé la pièce absolument géniale, parce que dans la façon dont on expliquait Jacques le fataliste et son maître, on disait que Diderot avait complètement explosé tout le cadre du roman. Et c'est vrai que on a un récit cadre, c'est ce qu'on appelle la situation de départ. On a ce valet et ce maître, et puis on a toutes ces digressions, toutes ces histoires qui viennent s'emboîter les unes dans les autres. Quand on le lit, c'est absolument vertigineux, et quand on le voit aussi, parce qu'il faut parvenir à faire sentir ça au spectateur, à pas se mélanger et à continuer à garder le grand fil du récit. Ça, c'est vraiment, en termes de mise en scène, Nicolas Briançon, c'est absolument majestueux.
Voilà, ça c'est dit.
Merci d'être venu.
Êtes-vous d'accord?
C'est très gentil, merci.
Non, mais c'est vrai.
Vous savez, dans ce métier, on est dans des projets, on participe à des aventures, et c'est toujours très absolument merveilleux et réjouissant. Je vais pas faire du tout pleurer sur mon métier qui est le plus beau du monde quand on arrive à le pratiquer. Mais de temps en temps, on s'attache à des projets de façon très affective, peut-être encore plus qu'à d'autres. Vous l'avez compris, j'ai un rapport à cette pièce-là qui est très très
intime,
fort, et
ouais.
Donc forcément, je crois que dans ces cas-là, si on rate pas trop son coup par trop d'amour, on peut y mettre quelque chose de très personnel.
C'est pas pour rien que vous l'avez choisi pour cette renaissance et retour au théâtre aussi, sur les planches, au théâtre de Montparnasse.
Je trouvais que c'était de réattaquer après presque deux ans d'absence,
d'abstinence.
De théâtre fermé. Je réattaquer par ça, aussi le message que délivre la pièce. Enfin, le message, c'est un grand mot, mais la philosophie, que dégage cette pièce. Ça me faisait plaisir, vraiment.
Ça s'appelle Jacques et son maître, joué par et mise en scène par Nicolas Briançon. On va continuer d'en parler. Après les compliments, Nicolas, il serait temps quand même de revenir
vous salir
à
l'église au milieu du village.
À la réalité.
C'est encore vous, mais elle m'a déjà massacré.
C'est la deuxième couche. Vous aime toujours pas, Morgane.
Nicolas, je vois bien que vous essayez juste pour essayer de me séduire, mais moi je vous aime toujours pas. Toute cette fausse amitié avec Nagui juste pour m'atteindre, franchement. Ça fait des années que ça dure, vous faites du mal. Franchement, si vous voulez me proposer un premier rôle, il suffit de m'appeler. Vous avez pas besoin de vous taper cette émission trois fois par an. Je suis un peu dure, mais je suis pas un monstre non plus, quoi. En plus, non, je dis ça, je fais un peu la meuf, mais c'est le contraire, c'est vous qui m'avez encore oublié. En plus, cette fois, vous jouez au théâtre du Montparnasse, moi je suis direct à la ligne 4. Franchement, on dirait que vous essayez même pas, quoi. Je vais pas non plus aller vivre en face du théâtre au paradis du fruit pour que vous me remarquiez, quoi. En vrai, mon objectif de carrière à la base, c'était de prendre le melon, pas de le manger hors saison, quoi. Aujourd'hui, vous venez nous parler d'une pièce que vous adorez tellement que vous avez décidé d'en faire une nouvelle mise en scène, et je sais pas où vous trouvez le temps. Vu que vous êtes déjà occupé à mettre en scène la moitié de ce qui se joue dans Paris, il est en train de Kim Jong-uner le théâtre français. Hein. Vraiment, dans 10 ans, on dira « Ah, mais tu sais le metteur en scène, là ? Qui ça, Nicolas Briançon ? Non, bah non, justement, l'autre. Ah bah non, je vois pas. Vous travaillez trop, Nicolas, et ça doit être compliqué pour vos proches dans la vie de tous les jours, tu sais. T'imagines, tu te tapes tout le repas de Noël, 5h30 de réveillon, lui, il est là à l'écart dans un fauteuil, et à la fin, il dit « Bon, c'était pas mal, mais on va la refaire. » Avec un peu plus de joie de vivre cette fois-ci. Et mamie, pour l'amour du ciel, articulée. Isabelle ou père ou pas, on comprend pas ce que vous dites. En plus, on le sait que les metteurs en scène, ils sont constamment en création dans la vie de tous les jours. Vivre avec un metteur en scène, mais dans l'intimité, quel enfer. T'es en train de faire l'amour, le gars il dit c'est pas mal, un peu plus à jardin. Non, oh, reviens à court. Il y pièce, puis le lendemain, il va se faire une italienne et le surlendemain, une couturière. Les hommes. Cette fois-ci, vous mettez en scène Jacques et son maître, une variation de Milan Kundera sur l'œuvre de Diderot. Ça commence à faire beaucoup de noms propres. Moi, ça me perd. En plus, ça fait quand même un paquet d'années qu'il suffirait de mettre Nicolas Briançon fait un truc pour que les gens se déplacent. Parce que c'est bien connu, dans Briançon, il y a brillant, il y a aussi son. Mais ça, j'avoue, je sais pas quoi en faire.
Attention.
Ça sauve beaucoup de choses, les CDI parfois. Non, mais pas, oui, il y a son, mais parfois, je me retrouve avec des chutes de vannes inutilisées. Comme ça, voilà, il y a des chutes de cuir. Moi, j'ai des chutes de vannes. Un jour, d'ailleurs, je ferai un spectacle avec toutes mes chutes de blagues qui n'ont pas servi. Ça n'aura ni queue ni tête, mais comme ce sera mis en scène par Nicolas Briançon, je suis quasi sûre que ça sera complet.
Wow. Merci.
Et Morgane, on se retrouve au Métropole du jeudi au samedi, c'est à 20h.
En face du
Métropole Théâtre.
Au Métropole Théâtre, bien sûr, du jeudi au samedi à 20h. Et il y aura peut-être aussi des coupelles de fruits.
Peut-être.
Et le 26 septembre, Folie Bergère, elle fera partie de On ne plaisante pas avec l'humour.
Assume.
Au métro des Folies Bergère.
Au Métropole. Au Métropole, c'est rue du Sentier.
Tout à fait.
Elle a un chapeau marron. Ouais,
voilà. Cette pièce, donc, on a bien compris qu'elle était fondamentale pour vous dans votre vie, mais elle est aussi dans l'histoire, entre guillemets, du théâtre, de la littérature. C'est-à-dire ce texte de Diderot, revisité, puisque adapté n'est pas le bon mot. C'est
une variation.
Voilà, une variation. D'ailleurs, je me rends pas compte, oui, de ce que Kundera, on a fait par rapport à Diderot. Ma culture ne me permet pas de juger.
Il y a des dizaines et des dizaines d'histoires dans le roman de Diderot. C'est très, il y a énormément de choses là.
Il y a du monde sur scène aussi quand même.
Là, on suit l'histoire de Jacques. On suit l'histoire d'amour de Jacques. On suit celle du maître. Et puis on suit ce qui fait le cœur du deuxième acte, et qui est un épisode qui a d'ailleurs été très souvent repris au cinéma. Par exemple, il y a le film de Robert Bresson qui s'appelle Les Dames du Bois de Boulogne. Il y a un film plus récent avec Édouard Baird qui reprend aussi cette thématique de Madame de la Pommeraye, du Marquis des Arcis, c'est-à-dire que cet épisode, qui est l'épisode central du roman, de la vengeance d'une femme blessée par le désamour d'un homme, d'une vengeance terrible, ce récit-là est souvent extrait de Jacques pour en faire un argument, un film, un scénario. Là, Milan a gardé, pour lui, c'était très important que cette histoire soit racontée par quelqu'un qui est l'aubergiste, qui joue la marquise, et en même temps devant des gens. C'est-à-dire que c'est pas simplement, ce qu'on montre, c'est pas simplement l'histoire de la marquise, c'est Jacques et son maître assistant à cette histoire, la commentant, intervenant dans le récit.
Comme la mise en abîme qu'il y a dans
essayant d'en changer la fin de l'histoire,
c'est ça. À un certain intervenant moment. Dans la scène.
Et ce que je veux dire, moi, je trouve la pièce est assez extraordinaire, parce qu'évidemment, on va se dire, bon, alors c'est une pièce de romancier. Milan Kundera, c'est un grand romancier, c'est pas un homme de théâtre a priori, et je trouve que cette pièce-là n'a aucun des défauts de pièce de romancier. Elle est d'une virtuosité technique, puisque le théâtre c'est très technique, l'écriture théâtrale extraordinaire, avec des passages d'une histoire à une autre qui se font de façon très fluide, et puis c'est l'extraordinaire intelligence de Kundera, mais c'est une intelligence généreuse, c'est une intelligence qui ne se réfugie jamais dans une tour d'ivoire toute seule dans son coin pour laisser tomber une parole qui serait supérieure. C'est une intelligence généreuse qui vous tend la main et qui vous fait accéder à des... Moi, je suis qu'un pauvre acteur, hein. Vous savez, j'ai très peu de cerveau, hein. Je transmets des textes. Je n'ai pas la capacité de les écrire, ces textes-là.
Oui, non, mais
ça se sent quand même.
Vous les mettez...
Je vous remercie.
Nicolas, vous les mettez en scène.
Oui,
c'est une autre forme de variation que de mettre en scène.
Oui, je le fais avec une... de l'intuition. Alors parfois elle est bonne, parfois elle est moins bonne, mais
c'est une forme de réécriture. Hein,
bah oui, c'est pour ça que j'envoie le terme de variation. Et alors comment vous apportez votre patte à cette variation?
C'est difficile de définir moment par moment ce que j'ai pu apporter qui ne serait pas dans le texte. Mais je sais que par exemple quand j'ai monté la pièce la première fois, on a commencé à la jouer dans un petit théâtre à Paris et ça s'est mis à marcher très vite. La presse avait l'air heureuse et les gens sont venus.
Comme cette fois-ci, la presse est très heureuse.
La presse est très heureuse.
Rendez les gens heureux, Nicolas.
Ah non, mais alors vraiment,
c'est exactement ça.
Ça, t'as raison. Ça, t'as raison. La première chose que j'ai pu dire à Nicolas après la représentation, c'est une pièce qui m'a donné envie de faire du théâtre. C'est une pièce, quand on la voit, on a envie d'être sur scène.
Il y a un appel du pied là quand même.
Non, pas du tout, aucunement. Non, pour le plaisir que ça suscite, le plaisir de les voir eux jouer.
Oui, bien côté festif aussi. Il y a un côté troupe qui joue aussi. Il y a cette espèce de, il y a l'imaginaire aussi, ouais, avec les différents endroits dans la mise en scène, dans le décor que vous faites. Et puis il y a ce côté, on se raconte, on observe l'histoire que l'on raconte soi-même. Ça marche à tous les niveaux. Et puis il y a, même si faut pas trop parler de morale, il y a quand même ce petit côté philosophique sympa, extrêmement moderne, je trouve, où chacun peut y piocher aussi sa...
Et un peu politique aussi, parce que Kundera, il écrit pas ce texte social à n'importe quel moment.
Bah non, il écrit ça au moment où les chars russes rentrent dans Prague, au moment où tous ses livres sont interdits, il peut plus publier. Donc on lui propose de faire une adaptation théâtrale pour sous un pseudonyme pour survivre, pour gagner 3 sous. Il hésite un peu, et puis on lui propose de faire Les Frères Karamazov, de Dostoïevski. Et il pense, il est en train de réfléchir à cette proposition, il se fait arrêter dans Prague par une troupe russe qui contrôle sa bagnole, désosse sa voiture, lui remonte, et puis le capitaine russe qui dirige l'opération, qui est un brave type, lui rend ses papiers en lui disant « Quel dommage que vous ne nous aimiez pas, nous qui vous aimons tant. » Et il raconte qu'à ce moment-là, elle a compris pourquoi il ne voulait pas faire Les Frères Karamazov, pas par réflexe anti-russe d'un Tchèque envahi par les Russes, mais plutôt par refus de cette espèce de sentimentalisme, de primauté donnée au sentiment, qui est quand même la marque du monde contemporain, qui fait qu'au nom de l'amour, eh ben, on peut tout vous faire. Au nom de l'amour, j'envahis ton pays. Au nom de l'amour, je t'aime, donc je t'empêche de faire ce que tu as envie de faire. Au nom de l'amour, tu es mon prisonnier. Au nom de l'amour, tu sortiras pas de la maison. Au nom de l'amour, bon, etc., etc., etc.
Et on peut tout faire au nom de l'amour.
L'antidote de ça pour lui, c'était le siècle des Lumières français. Et dans le siècle des Lumières, c'était Diderot. Et dans Diderot, c'était Jacques le fataliste, qui était pour lui le symbole de la liberté la plus absolue.
Et
donc il se lance, il écrit en tchèque cette variation, et qui est vraiment une écriture à deux mains. C'est-à-dire que je trouve même dans la pièce, on le sent assez fort, on attaque vraiment avec Diderot dans quelque chose de très picaresque, des récits de dépucelage, etc. C'est marrant, de mecs dans le grenier, etc. Et puis plus on avance, plus on a l'impression que le théâtre du XXe siècle, et le XXe siècle d'ailleurs, et lui-même, et ses horreurs, sont passées sur ces personnages-là, et on a deux personnages qui pourraient presque être les personnages d'un Nathan Mongo. On voit passer l'ombre de Ionesco, d'ailleurs, avec un très joli moment autour des chaises. Il y a quelque chose qui devient un peu absurde, et ces deux personnages sont tout d'un coup hors du temps, dans un moment très...
C'est-à-dire que Kundera a donné des indications, des didascalies de mise en scène aussi,
alors,
des intentions.
Il en met quelques-unes, et quand il est venu d'ailleurs la première fois, parce que moi on m'avait raconté que quand j'ai connu Kundera, c'était donc quand j'ai monté la pièce la première fois il y a plus de 20 ans, et il avait une réputation très dure avec ce qu'on fait de son œuvre. Et donc, comme le spectacle commençait à marcher, moi j'en étais tellement content. Et
puis un matin, il est toujours vivant, il a
93 ans.
93 ans, d'accord.
Et l'attaché de presse m'a appelé en me disant il est là ce soir. Et là, j'ai eu une panique atroce. Je ne l'ai pas dit aux autres acteurs, donc j'ai tout pris sur moi. Ils ont tous compris. Hein. Parce que j'étais dans un état, j'ai fait la pire représentation de ma vie. Je m'en regardais jouer en me disant, mais t'es vraiment une merde.
Mais pourquoi l'attaché de presse vous l'a dit? On ne doit pas dire ça.
En fait, c'était pour déconner, il n'était pas là.
Si. Et en me disant, il a prévenu, il ne restera pas à la fin, etc.
Ah ouais,
et
donc, il ne reste pas jusqu'au bout, il vient, mais il se barre.
J'ai fait une représentation que je juge épouvantable en voyant mon spectacle et en me disant, en notant point par point tout ce qui n'était pas écrit dans ses didascalies à lui, en me disant, il va détester ça, ouais. Il y avait les tziganes, je dis, il va haïr. Et puis, à un moment, à la fin du deuxième acte, je partais dans la salle comme ça, et j'entends, juste avant de descendre dans la salle, un rire. Et je ne sais pas pourquoi je me dis, c'est lui, c'est vraiment de... Et je traverse l'allée, et là je le vois en bord d'allée, il a le menton posé sur ses mains, comme ça, il regarde et il sourit. Et je me dis, waouh!
Cadeau!
Ouais. Et puis il est resté à la fin, il était très chaleureux, il est venu une quinzaine de fois, je crois, voir cette première version, et puis ça. Voilà, après on s'est beaucoup rencontrés, beaucoup vu.
Et là vous êtes beaucoup éloigné de cette version?
Oui, il y a quelque chose de plus. Milan m'avait dit un jour, quand on parlait de la pièce, après même la deuxième version, il m'a dit, tu devrais un jour. Plus mélancolique, ça sera plus drôle. Et je crois que j'ai pas eu peur d'être plus mélancolique dans cette version-là, mais sûrement parce que je le fais aussi à un âge différent, et que le temps passe, et que c'est bien que ça atteinte aussi le travail qu'on fait. C'est pour ça que je la remonte.
Non, mais c'est marrant que son intention est de le rendre plus drôle.
Oui. Ah, mais il est très attaché à ça. Il m'a raconté qu'un jour, la pièce était montée à New York dans une version très, très intello. Donc, il n'avait pas pu y aller. Il avait dit à des amis qui avaient été le voir, et il dit, mais vous... les amis lui disent, non, c'est bien, c'est bien. Alors, il dit, mais vous avez ri? Et les amis lui ont dit, non, non, mais c'est bien. Non, il a, oui, oui, il adore. Que
Jacques et son maître, c'est au Théâtre du Montparnasse. Avec Nicolas Briançon, mise en scène par Nicolas Briançon, avec Stéphane Hillel, Lisa Martineau, Pierre-Alain Leleu, Camille Favrebulle, Maxime Lombard, Philippe Bautier, Elena Terenteva, je vous avais dit qu'il y avait du monde, hein, Jana Bitnerova, Marek Zerniavski, Boban Milosevic,
ah, là, ce sont pour les violonistes.
Voilà, violoniste et accordéoniste Tzigane sur scène. C'est une fête aussi, cette représentation. À vous d'en profiter avant qu'elle ne parte en tournée, j'imagine. Oui. Je vous le souhaite en tout cas. Voici Alexis Laurenti.
Et bonjour à tous.
Et bonjour à toi.
Comment allez-vous?
Bien.
J'ai remarqué un truc, c'est que dans l'année, il y a deux moments où on prend des grandes décisions. Il y a le 1er janvier parce que c'est la tradition, et la rentrée parce qu'un samedi matin, tu te réveilles, tu descends acheter du pain, et par hasard, tu tombes sur le forum des associations du quartier, le supermarché des idées pour s'occuper, et là, tu croises plein de gens qui t'invitent à les rejoindre dans leur asso et qui ont l'air très très heureux. Et en les voyant, ces gens heureux, tu te dis, est-ce que la clé du bonheur, c'est pas de s'engager dans une asso? D'ailleurs, quand quelqu'un va pas très bien, qu'est-ce qu'on lui dit? T'as pensé à la vie associative? Non, bah tu devrais. Les Restos du Cœur, par exemple, ce serait pas mal pour toi. Moi, l'année où j'habitais dans mon petit boui-boui qui donnait plein nord, j'avais fait des maraudes, ça m'avait fait du bien.
Ah bon?
Et ensuite, t'as arrêté? Bah ouais, après, j'ai trouvé un appart orienté plein sud, du coup, ça allait mieux, j'ai fait de la Zumba. Bref. Donc, t'oublies ta baguette et tu regardes ce qu'il y a. Et là vient le problème des gens comme moi. Les beaux gosses? Non. Les gens qui n'ont pas de passion. Et donc, ils sont susceptibles de s'intéresser à tout. Et tu commences à te poser des questions, du genre, est-ce que je deviendrai pas philatéliste, moi? Ou joueur de Scrabble en assaut? Donc, je suis là, il fait beau, je flâne, quoi. Et à un moment donné, je sens une odeur de banane. Je me retourne, et qu'est-ce que je vois derrière moi? Une association de salsa colombienne avec des gens qui dansent et d'autres qui font frire des bananes. Est-ce que vous aimez ça, les bananes frites, vous? Moi, j'adore ça. Donc, je fais quoi? Ben, je m'approche.
C'est le moment.
Pourquoi?
De solitude.
Parce que j'adore ça, les bananes frites. Je viens de le dire. Sauf qu'à 2 mètres des bananes, alors que j'allais choper une assiette, il y a une prof de danse qui m'attrape les mains et qui commence à me faire danser. Pourquoi ça tombe toujours sur moi, ce truc-là? En 10 secondes, tout le monde me regardait. Le forum des associations avait trouvé son couillon. J'avais beau dire, no, yo, yo, banana, solo banana. La musique était à fond, c'était parti, quoi. Et la danseuse était là, muy bien, bailas bien. Et moi, mais non, no bailo bien. J'en ai fait de la salsa au Mexique. Au bout de 3 cours, la prof m'a dit je vais arrêter. C'est les élèves qui disent ça normalement. Moi je lui avais dit mais non, n'arrêtez pas, vous dansez pas si mal. Juste à côté, il y avait le stand d'un club de méditation. On voyait qu'ils essayaient de faire le vide dans leur tête, mais avec la salsa à fond dans les oreilles, ça avait pas l'air simple. De l'autre côté, il y avait une asso de surf aussi. Alors ils avaient l'air un peu tristes, mais pour une autre raison. En même temps, les vagues à Paris, disons quand un gros bateau mouche passe, faut pas le rater, quoi. Sinon, il y a une amicale gaulliste aussi en bas de chez moi. Alors j'ai discuté avec eux, ils sont très gentils, mais un brin nostalgique quand même. Ils commencent toutes leurs phrases par « si le général était là » ou « à l'époque du général » et ils finissent systématiquement par « oh là là, c'était mieux avant ». Alors moi, je pensais que ce genre d'assaut, c'était mourant. En fait, pas du tout. Ils sont même obligés de refuser des candidatures parce que tout le monde se dit gaulliste aujourd'hui. Même les gens de gauche sont gaullistes. Regardez Macron. Enfin, mauvais exemple, quoi. Bref, après 4 minutes de danse, j'ai quand même réussi à atteindre les bananes. Et au final, j'ai même adhéré à une assaut. Une assaut de sport, parce que j'ai pesé le pour et le contre, et je crois qu'en ce moment, j'ai plus besoin de transpirer que de décoller des timbres. Enfin, j'ai pas encore adhéré. Je suis allé à une séance de découverte de boxe française. C'est pratique, les séances de découverte, ça permet de tester sans s'engager. Si ça se trouve, il y en a qui font que ça, d'ailleurs, avec le nombre d'assauts qu'il y a à Paris. Moi, ce soir, j'ai aquabail. Et demain, j'ai volley. J'aime pas le volley, mais bon, là, c'est une séance gratuite, quoi. 10 ans que j'avais pas mis les pieds dans une salle de sport. Alors, on a commencé par se présenter. Il y avait Théo, 16 ans. Léo, 18 ans. Un autre Léo, 18 ans aussi. Le prénom Léo, c'est le Jean-Michel des années 2000. Alors, moi, j'étais un peu gêné. J'ai dit, bonsoir. Alexis, 37 ans. Les gamins me vouvoyaient après, quoi. Alors, ensuite, on a fait des pompes directes, hein. Comme découverte, j'ai connu plus doux. Ceux qui avaient l'habitude ont fait des pompes claquées. C'est-à-dire qu'ils applaudissaient tout en faisant des pompes. Je ne sais pas si vous avez vu ça déjà. Sportivement, ça ne sert pas à grand-chose, mais ça humilie vachement bien ceux qui galèrent à côté. De leur côté, les débutants pouvaient faire des pompes genoux au sol pour que ce ne soit pas trop dur. Et moi, j'ai fait des pompes sur le dos. Et encore, le coach m'a dit, forcez pas trop quand même. Coach, ancien champion du monde quand même. Hein.
Voilà.
C'est marrant, les profs d'arts martiaux, ils ont toujours été champions du monde ou champions d'Europe. Parfois, dans une discipline qu'ils n'enseignent même pas, tu vois. Lui, c'était un ancien champion du monde de Fujitsu. Alors, je connaissais pas, c'est un art martial assisté par ordinateur. Bref, au bout de 5 minutes d'échauffement, je suais comme Zidane et j'avais très envie d'une bière fraîche. Au bout de 10 minutes, j'avais envie de 2 bières fraîches. Et la séance a duré 2 heures. Ça a fait beaucoup, beaucoup de bières fraîches en rentrant chez moi, quoi. Et tout en les buvant, je me suis dit, c'est quand même dommage d'avoir à faire autant de sport pour apprécier une bière. Avant, j'avais pas besoin de ça. Comme quoi, les gaullistes ont raison. C'était mieux avant.
Allez, merci, bonne journée, Alexis Lancillol.
Et Alexis, on se retrouve au théâtre Le République du jeudi au samedi à 21h15.
Et en Folie Bergère le 26.
Mais décidément, c'est blindé.
Ils sont tous là.
Il faut pas qu'il y ait plus de monde sur scène que dans la salle, faites gaffe.
On va essayer, ouais.
Tom Villa nous donnera son prix de la semaine dans quelques minutes. Ariane Chemin, grand reporter au Monde, viendra nous raconter son enquête sur Milan Kundera, voilà. Puisque nous parlons de Jacques et son maître. Est-ce que le décor, évidemment dans la mise en scène, il faut penser à tout, au costumes, aux perruques, j'imagine, à la musique et à ce décor qui est bien utile avec cette présence du grenier permanente.
Oui, qui est un dispositif scénique très 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 simple. C'est-à-dire que il y a un tréteau, mais ça c'est ce que demande Kundera, parce qu'il y a l'idée du théâtre dans le théâtre. Donc il y a un tréteau posé, puis cette espèce d'échelle qui monte à ce grenier, et puis cet espace-là, il sert et les murs du théâtre aussi qui sont si beaux.
Le grenier sert aux amours interdites.
Et puis tout cet espace-là sert à raconter toutes les histoires, que ce soit celle du maître, celle de Jacques, celle de l'aubergiste, avec des accessoires qui rentrent, qui sortent, la musique, enfin...
Ouais. Ah bah si, la musique. Et alors, pourquoi Tzigane ? Pour le voyage ?
Pour le voyage d'une part, pour la route, pour l'Est... parce qu'il y a dans cette écriture, et notamment dans le personnage du maître, qui est peut-être le personnage le plus kundérien, je ne sais pas si on peut employer ce terme, de la pièce, une nostalgie qui est bien plus supérieure à celle qu'écrit Diderot, qui est pour moi tellement attachée à ces peuples-là, à cette culture-là. Il y a quelque chose d'énorme, au sens énormité, c'est-à-dire qu'on n'a pas peur de parler, disons-le, de cul, de rentrer dans ça. Il faut se rappeler à quel point Kundera adore Rabelais, d'ailleurs.
Et de rire fort.
Et puis...
Titre.
Oui, titre, bien, bien.
Et vous avez rendu compte en le disant. Il y a l'œil qui a frisé tout de suite. Enfin, c'est pas moi.
Si, c'est toi.
Non, moi je commente.
Et en même temps, il y a une tristesse infinie dans le personnage du maître qui a été trompé en amitié, trompé en amour, et qui traîne ce bagage là avec lui tout le temps. Et je sais pas, la musique Tzigane, ça m'évoque ça. Et puis c'était la rencontre avec ces deux musiciens merveilleux qui sont des fous furieux,
Marek et Boban.
Ouais, on avait fait une tournée absolument merveilleuse avec eux.
Ah, c'est ambiance en tout cas.
Ouais, avec Jacques, dès qu'on arrivait dans une ville, il repérait l'endroit où ils allaient faire un bœuf après le spectacle, et donc ils ont enchanté des villes entières comme ça.
La musique dans la vie, justement, de Nicolas Briançon en 87, vous écoutiez. Sûrement le groupe le plus théâtral de tous les groupes français. Rita Mitsouko, quelle image avez-vous en écoutant ce titre ?
Ah ben moi, c'est 87, c'est l'année où je rentre aux Français. C'est une année extrêmement joyeuse, extrêmement amusante.
C'est joyeux de travailler à la Comédie Française, contraire, c'est laborieux.
Non, alors je suis tombé dans une période un peu particulière où il y avait énormément de conflits. Jean Le Poulain venait d'être nommé administrateur et ça a gueulé un peu dans la troupe, donc moi j'ai débarqué là-dedans dans ces guerres que je ne maîtrisais pas du tout, mais j'ai traversé ça plutôt joyeusement. D'abord je déboulais de mon clair d'Agenais, de chez Roger Lauré, vous voyez, d'un village de 900 habitants dans Lot-et-Garonne avec un théâtre.
Rêve de gosse, quoi.
Où il fallait que je fasse des tas de trucs, puis tout d'un coup j'étais au Français, où on prenait mes mesures de chaussures pour me faire des pompes sur mesure pour n'importe quelle pièce. Enfin, c'était des conditions de travail absolument géniales. Non, j'ai un merveilleux souvenir, moi, de cette période.
Et voilà. Un beau souvenir de scène à la Comédie Française, ça serait pour quelle pièce ? Mise en scène par qui ?
Turcaré, mise en scène par Yves Gasque, avec Roland Bertin, le merveilleux Roland Bertin, qui m'a fait rire tous les jours, qui m'a très gentiment détendu avec ses bêtises qui me racontait des choses que je ne peux pas raconter à la radio ici, mais avec lesquelles j'ai beaucoup ri, ce qui fait...
Mais qui vous faut encore rire aujourd'hui.
Ah bah oui, parce que c'était insensé. Mais c'était...
Oh, une vraiment... petite, là, c'est...
Non, vraiment, non, non.
C'est
mais
un peu comme Jacques et son maître, quoi. Voilà.
Oui, on était un peu
plus coloré.
Un peu au-dessus.
Voilà, c'est ça.
En 98, justement...
Ah oui.
C'est du monde.
Ah oui, d'accord, pour ça, parce que pour la musique...
Ah bah, pour du monde. Pour la musique.
J'aime bien, pour la musique.
Attendez, au milieu, vous voulez qu'on réécoute le blind test.
Et au milieu, Morgan.
C'est entraînant.
T'as une fin de soirée.
C'est toi, on passe ça, tu te lèves, tu danses.
Bien sûr.
D'accord.
D'habitude, on se lève, on part, mais...
La Coupe du Monde.
C'est la Coupe du Monde, ouais. Enfin, pour moi, c'est la Coupe du Monde, vraiment... Oui.
C'est la Coupe du Monde.
Non, c'était plutôt I Will Survive, la Coupe du Monde.
Bah, moi, c'est ça.
D'accord, ok. Je vous en veux pas.
Et on se juge pas, surtout.
Non. Et on est en 98, donc.
En fait, je suis parti au Brésil, peut-être.
C'est déjà, c'est déjà sur scène Jacques et son maître. Après, on l'a évoqué, les années Twist, qui ont permis finalement d'aller vers ce beau spectacle. Donc, il y a une parenté qui est pas anodine.
C'était en 98, non, les années Twist, non.
Non, les années Twist, c'est avant. Mais mon premier Jacques à Montclar, 98, c'est Jacques à Paris. Et 96, c'est à Montclar d'Agenais.
D'accord.
Et ça vous vaudra 3 nominations aux Molières, notamment.
Les premières.
Ouais.
C'est là que j'ai appris à pas avoir l'air déçu à la télévision quand la caméra se fout sous votre nez et qu'on vous annonce que vous l'avez pas. Ce qui est un vrai boulot.
C'est une composition.
C'est un vrai boulot parce que vous êtes là, alors la caméra est là, je dis c'est pas moi, il faut que je... Donc c'est évidemment votre pire ennemi qui l'a toujours.
Non, c'est ce moment-là.
Et donc vous êtes obligé d'applaudir en disant sale con. Voilà.
Est-ce qu'on peut retrouver les archives?
Non, mais vous savez très bien
ce que j'étais en train de demander.
Non, je vous assure que je suis les années plus récentes, je m'en souviens. 18,
on va trouver. En 2005, vous écoutiez du Mozart.
Ça va marcher, ça.
Je pourrais mettre Mozart toutes les années. Hein. Je peux pas.
Non, mais il me semble que cette symphonie numéro 40 avait été chantée par les compagnons de la chanson. Il me semble.
Alors, j'ignore cette version. Je suis trop jeune pour l'avoir entendue.
C'est moche.
Mais peut-être. On va pas parler de Mozart là, mais.
Si.
Mozart est un élément indispensable de ma vie.
Pourquoi?
Parce qu'il il répond à mes angoisses, sans doute, à mes inquiétudes, à mes questionnements. Il me rassure, il me console, il me prend par la main. cette symphonie, qui est peut-être la plus désespérée, qui est de mémoire, je crois que c'est 88, 3 ans avant sa mort, elle est à la fois, elle a toute la grâce de Mozart, c'est-à-dire qu'elle a l'air extrêmement joyeuse et en même temps, elle cache derrière des choses tellement profondes. Je pense à Jacques d'ailleurs. Il y a quelque chose dans cette façon d'afficher sa légèreté et en même temps de parler de choses graves qui me touche beaucoup.
Voilà. Mais est-ce que c'est en lien donc avec cette année 2005 où vous êtes à l'affiche de 3 films, L'Avion de Cédric Kahn, Les Poupées Russes Clapiche et Gentille de Sophie Filière.
J'écoute du Mozart tout le temps. Ouais. J'ai mon casque, mais j'écoute de l'opéra, des symphonies, des quatuors.
En fonction de quoi? De l'humeur, justement, vous choisissez le morceau pour. Alors, en fonction de l'humeur dans laquelle vous êtes ou en fonction de l'humeur dans laquelle vous voulez passer?
Parfois, j'ai envie d'écouter ou de découvrir des œuvres que je connais moins. Parfois, j'ai au contraire envie de retourner dans des endroits que je connais par cœur. Et parce que c'est très plaisant d'entendre tout d'un coup, dans le concerto numéro 20, par exemple, à un moment donné, il y a une espèce de petit thème à la clarinette qui surgit de nulle part et que je trouve absolument magique avec un changement de tonalité. On passe du mineur au majeur et c'est extraordinaire.
Et avant de venir ici, vous écoutez quoi?
Comment?
Avant de venir là, vous écoutez quoi?
Avant de venir, j'ai rien écouté, j'étais en...
Requiem de Gabriel Fauré, au bout du
rouleau. Très beau.
Ouais, c'est beau, mais c'est triste.
Mais c'est bon, moi par exemple,
c'était Robert Hirsch qui avait eu le Molière en 98.
Mais du meilleur acteur, moi j'étais pas meilleur acteur.
Non, le truc c'est que c'est 99, c'était à la mise en scène et c'était Gildas Bourdet.
Oui, c'est ça.
Il y a eu un blanc. Silence.
J'aime beaucoup Gildas Bourdet.
Bravo Gildas.
99.
Ouais. Enfin, Molière 99. Bah, oui, Molière, c'est toujours décalé.
Ça. Eh oui. C'est-à-dire que c'est aussi un métier, paradoxalement, le théâtre, un métier de
finis cette phrase, c'est très bizarre.
C'est aussi un métier de troupe, de partage et donc de connivence. C'est aussi un métier de compétition.
Oui, enfin moi je le vis pas du tout honnêtement.
Où il y a vraiment la famille du théâtre.
Non, c'est une famille comme toutes les familles dans lesquelles des gens se détestent, dans lesquelles des gens dont voilà. S'adore. On va pas faire, enfin c'est un mythe, on s'en fout. Voilà, il y a des gens qu'on a des vrais copains dans cette profession-là, et puis on a aussi des gens qu'on aime moins, et ça n'a aucune importance et c'est pas très grave. Et puis chacun a bien le droit de penser ce qu'il veut.
C'est bien normal.
Mais oui, mais moi j'ai jamais vécu ce métier en concurrence. Quand je monte un spectacle ou quand je joue, je suis pas en train de me dire il y a machin à 200 mètres dans un autre théâtre qui il faut que je lui dise non, je m'en fous. Après les Molières, on va pas parler de ça, mais c'est très agréable, c'est une récompense et machin, on l'a pas, on s'en fout.
Et le lieu, puisque vous dites le théâtre d'à côté, le théâtre d'en face, est-ce que le lieu où on joue est un personnage aussi important dans une pièce que le
très important.
C'est vrai.
Mais bien sûr, le théâtre c'est l'endroit
par superstition déjà ou par confort.
Non, parce que on a la chance à Paris d'avoir un ensemble de théâtres à l'italienne absolument merveilleux. Vous savez, moi, les théâtres, je sais pas, vous me parlez de théâtre, c'est comme, j'imagine pour quelqu'un qui est croyant, c'est comme si vous me parlez d'une église. C'est-à-dire que le théâtre, moi, sacré. Quand je rentre dans un théâtre, n'importe quel théâtre, je suis bien.
Vous signez.
Je m'assieds et je suis content.
Il n'y a pas des théâtres comme ça qui font résistance un peu.
Il n'y a pas une salle.
Ouais.
Oh bah j'ai connu des bides dans certains théâtres, mais
non, mais pas en lien avec le succès qu'on rencontre dans un endroit, mais aux ondes. Vous devez être sensible à ça.
Hein, non, je suis jamais rentré dans des théâtres où je me suis senti mal.
Ouais.
Mais même des salles modernes, genre Pleyel qui a été refait, etc.
Ah bah ça m'intéresse moins, ouais. Oui c'est sûr, c'est un tout petit peu moins...
Ah, quoi qu'elle a été bien refaite. Hein,
oui, elle est bien faite, ouais. Elle n'est pas faite pour le théâtre de toute façon.
Non, pas en termes d'acoustique.
À propos de musique et de Mozart et de la symphonie numéro 40, chantée par les compagnons de la chanson, on a pris le temps, mais écoutez. Si vous la reconnaître.
C'est une variation.
Ah bah oui.
Autant de Pierrot et Colombine dans un monde moins fou qu'aujourd'hui. Pierrot n'avait pas d'automobile.
Fred Mella.
Exactement.
Son ami. Très bon chanteur au demeurant. Aznavour l'adorait.
Il courait. Voilà, au moins vous ne partirez pas les mains vides de cette émission.
Un peu de culture ne nuit pas.
Non, jamais.
Bon, c'est pas la chanson des compagnons qui a marqué en carrière, mais c'est du Mozart. Ça reste.
Oui, enfin.
C'était.
La chair tournée.
Jacques et son maître de Milan Kundera, cette variation mise en scène jouée par Nicolas Briançon. Justement, Ariane Chemin nous a rejoint. Bonjour, Ariane.
Bonjour.
Bienvenue à ce micro. Journaliste au Monde, vous avez écrit À la recherche de Milan Kundera aux éditions du Sous-Sol.
C'est un super bouquin.
Un livre formidable.
Ouais.
Bon, alors on a évoqué tout à l'heure Milan Kundera, justement comment le présenter à un enfant qui ne le connaît pas et qui entend ce nom sans trop savoir qui est ce personnage.
C'est une bonne question parce qu'il est très connu de toute une génération, je pense plutôt la mienne, celle qui a connu le succès de L'insoutenable légèreté de l'être, c'était en 84, sa dernière apparition à la télévision, mais c'est vrai que on peut se demander si les générations d'après le connaissent, moins forcément, mais c'est quand même quelqu'un qui reste, alors c'est un auteur qui a traversé, je dirais, toute la seconde moitié, tout le XXe siècle, c'est en ça qu'il m'intéressait. Il naît en 1920, donc il traverse, il a le souvenir par ses parents de la Première Guerre mondiale, ensuite il vit l'invasion nazie, ensuite il vit l'invasion soviétique, ensuite il émigre en 75 en France, c'est l'époque de Jacques et son maître, et puis aujourd'hui c'est un écrivain qui a écrit à la fois en tchèque, en français, et qui, c'est en ça qu'il m'a émue. On dit souvent, je sais plus où j'habite. Et ben, en fait, Milan Kundera, c'est un peu ça. C'est qu'il a la nostalgie d'un pays qu'il a quitté. Il a une gratitude pour la France qu'il a accueillie. Et il sait plus très bien quelle langue parler. Il sait plus très bien où il est. Et en ça, il est un personnage à la fois mélancolique et un peu tragique.
Alors, il vous a fasciné par son écriture, justement, avant de savoir tout ce que vous venez de dire sur lui.
Qu'est-ce qui vous a fasciné ? J'ai aimé. comme jeune lectrice. Kundera, je me souviens, je m'y suis plongée. Je lisais que ça au début des années 80. En plus, c'est des petits formats folio. Avec, c'est lui-même qui dessine les couvertures, c'est magnifique. Je me suis plongée dans son œuvre. Et après... Aujourd'hui, j'ai eu envie de savoir qui était ce monsieur, fantôme, quoi, parce qu'on ne savait rien de lui.
Oui, il a disparu, en fait, quelque part.
Voilà, donc j'ai pas du tout fait œuvre de critique littéraire, pas du tout.
Bah alors pourquoi chercher quelqu'un qui veut volontairement disparaître et se cacher ?
Parce que je trouve qu'il racontait très très bien la tragédie du XXe siècle. Je trouvais qu'il racontait ça à lui tout seul. Et en fait, à vrai dire, j'ai pour ça, c'est comme ça que j'ai connu Nicolas Briançon. Je suis allée le voir. J'allais voir tous ses amis pour qu'il me raconte Milan Kundera, qui n'avait pas tellement l'intention de me rencontrer.
C'est une véritable recherche que vous avez faite en France et dans le monde.
Et je me souviens d'ailleurs.
Quand
même, hein. Je me souviens d'ailleurs de cette anecdote. J'étais venue vous voir, Nicolas, et vous m'aviez raconté une histoire que j'avais adorée. Il se trouve que Milan Kundera, il a toujours, il aime les cartes anciennes, il aime les horoscopes. Et sa femme Vera, elle a un pendule. Et quand elle va dîner chez les gens, elle prend son pendule et elle le met devant la bouffe, la nourriture, pour savoir si c'est bien ou pas bien. Et un jour, vous m'aviez raconté, Nicolas, qu'un jour vous étiez au restaurant et donc elle avait sorti son pendule devant la bouteille de vin, devant les plats qui s'annonçaient. Et Milan Kundera, vous l'imitez mieux que moi, avait eu cette phrase incroyable en disant: je comprends pas tous ces gens qui croient en Dieu et qui croient pas au
Tous ces cons qui croient en Dieu qu'ils n'ont jamais vu, moi je crois à mon pendule que je vois.
Plein de bon sens.
Donc, il faisait ce premier déjeuner, parce que le premier déjeuner, je m'en rappelle avec eux, où j'étais très impressionné, et qui a attaqué avec deux bouteilles de Bourgogne au déjeuner, plus un premier cognac, chaque fois avec le pendule qui disait oui. Alors j'étais obligé parce que le pendule avait dit oui. Puis j'osais pas dire non, moi. C'était un déjeuner, je bois jamais. Donc j'étais déjà mûr. Un deuxième cognac et au troisième cognac, le pendule a dit non pour Milan, mais oui pour moi. Et donc j'ai dû boire les deux cognacs.
Oui, parce que c'est-à-dire qu'il l'impose entre guillemets.
Non mais, ils ont fait exprès.
D'accord.
C'était ma petite épreuve d'entrée.
Donc vous avez rencontré Nicolas Briançon, les amis. Vous avez rencontré Vera.
Alors, je ne cherchais pas Vera et je l'ai trouvée, en fait. Je cherchais Milan, je ne l'ai pas trouvée. Mais en revanche...
Jamais.
Non, parce que d'abord, c'est quelqu'un qui vit un peu... Je parle sous le contrôle de Nicolas, mais un peu reclus. Mmh. Et puis, je crois que dès le départ, en fait, j'y croyais pas. Et je crois qu'au fond, dès le départ, c'est le paradoxe de quelqu'un qui fait des enquêtes et qui cherche des... Et là, pour Milan Kundera, j'avais pas envie d'insister, j'avais pas envie de l'embêter. Je crois qu'une forme de respect de l'écrivain m'empêchait vraiment de le poursuivre jusqu'au bout.
Alexis Lorenzien,
j'ai écouté une interview où vous en parlez, et vous dites que vous le voyez même parfois dans le 6e arrondissement.
En fait, je l'ai croisé un jour dans la rue, et je me suis dit, c'est quand même dingue, c'est l'écrivain que j'ai tant aimé quand j'avais 20 ans, il est là devant moi, et je crois que ça aurait été le président de la République, je lui aurais couru après en lui disant « je veux un interview » et Milan Kundera, j'ai pas osé.
Si vous aviez Milan Kundera devant vous, à part lui transmettre toute votre admiration, auriez-vous une question à lui poser ?
Je crois que je lui aurais posé une question sur sa femme. Parce qu'au fond, c'est elle que j'ai aimée dans cette quête. Je lui aurais dit peut-être « pourquoi Vera ?»
Parce que son regard sur les femmes, et la place des femmes d'ailleurs dans la pièce... Une place pas très
glorieuse. C'est tiré de Diderot, donc.
C'est un regard plutôt amusé. Et je crois que c'est d'ailleurs tout l'inverse de sa vie, puisqu'on parle de Vera, mais Vera, c'est la vigie, c'était à la fois sa protection. Non, mais c'est sa protection.
Elle est tout pour lui.
C'est sa protection, c'est sa vie, quoi. C'est un couple, alors au sens vraiment uni, qui est absolument.
Fusionnel.
Et ce qui m'avait frappé quand je les avais aperçus dans la rue, c'est qu'en fait, ils sont emmêlés comme deux arbres qui s'en mêlent. Ils se tiennent le bras. Elle est toute petite. Il la protège et à la fois elle le porte. Tout est dit dans leurs deux silhouettes.
Qui fusionnent.
Qui se tordent.
Ce qui est extrêmement agréable, c'est qu'on l'entend dans votre voix et encore plus quand on vous regarde, c'est que vous avez immédiatement un visage qui s'illumine et un sourire dès l'instant où vous évoquez Milan Kundera ou Vera.
C'est-à-dire que ça vous renvoie. Admiration, je sais pas si moi je dirais c'est le plus grand écrivain du XXe siècle, comme le disent beaucoup de gens.
C'est Gary pour vous, Ariane.
Oui, c'est sentimental, c'est personnel. Et tout à l'heure, j'entendais Nicolas Briançon qui disait, mais je trouve que ça le résume tellement bien. Fais ta mise en scène plus mélancolique, ce sera plus drôle. C'est ça que j'ai aimé chez lui, cette espèce d'humour qui vient de l'Est. Enfin, lui, il dirait de l'Europe centrale, il supporte pas ce mot de l'Est. Mais
bah oui.
Et puis, au fond, moi, quand je l'ai découvert, on était dans les années 80, vous voyez ce que c'était, le début du bling-bling, les émissions de... voilà, c'était le disco. Et lui, il racontait l'intimité d'une chambre dans une ville, Prague, où tout se passait dans les mots, où il y avait, on l'imaginait en noir et blanc, et nous on était dans les couleurs extravagantes, et je pense que j'ai aussi aimé ce décalage.
À la recherche de Milan Kundera aux éditions du Sous-Sol, l'excellente Ariane Chemin. Merci Ariane d'être venue à ce micro, c'est gentil, c'est classe, c'est chic, moi j'adore Ariane. Moi Tom Villa, non voilà, pourquoi non, je vous aime moins, c'est comme ça.
Oui,
c'est comme
ça, moi aussi.
Voici Tom Villa. Avec un prix, quel prix cette semaine?
C'est le prix de l'œuvre d'art de la semaine, et dans cette catégorie, les nommés sont.
Jean-Philippe Smet, je suis
là. Ah oui.
Vous me connaissez mieux sous le nom de Johnny.
Ah oui, la moto.
Premier nommé Johnny Hallyday, qui depuis cette semaine a son esplanade à Paris et même une statue en son hommage, qui représente un manche de guitare géant sur lequel on a accroché une Harley Davidson. C'est vrai qu'on ne sait pas si c'est un hommage à Johnny ou l'ouverture d'un Hard Rock Café.
Champs-Élysées.
Deuxième nommé, l'Arc de Triomphe, qui a été emballé par l'artiste Christo. Beaucoup de réactions négatives. Alors, je rappelle juste un truc. Notre-Dame, ça fait 2 ans qu'elle est dans le même état et personne n'a gueulé. Hein. Et troisième et dernier nommé, cette fois-ci, c'est une phrase qui est une œuvre d'art. Les talibans ont assuré que tous les sports pourront être pratiqués. Voici la liste de tous les sports autorisés. La pétanque sur femme, fléchette sur enfant, balle trap sur artiste et bowling avec des têtes de GIs. Et le grand gagnant dans la catégorie de l'œuvre d'art de la semaine.
Johnny.
Est
Johnny.
Christo. Christo.
Oui,
merci. C'est bien, Christo.
Je trouve ça très beau.
Mais c'est tellement bah oui,
c'est
j'adore.
C'est super.
Et bah oui. Alors, les Parisiens ont découvert cette semaine l'Arc de Triomphe, donc emballé selon les vœux de l'artiste Christo, décédé l'année dernière. Alors, comme toutes les œuvres d'art modernes, il y a beaucoup, beaucoup de réactions. Des gens se demandent à quoi ça sert d'empaqueter l'Arc de Triomphe. Alors, si on va par là, moi, j'ai envie de poser une autre question. C'est à quoi sert l'Arc de Triomphe? Non, mais, alors, évidemment, l'Arc de Triomphe, c'est pour rendre hommage aux victoires de l'armée française. Bah là, Christo, c'est pour rendre hommage à le roi Merlin. Non, à la base, c'est quand même un arc en pierre qui ne sert à rien. Je veux dire, il n'y a pas un hôtel, pas un restaurant, pas un rooftop, pas une gagnette, rien. Il est là depuis 1836, on a fini par s'y habituer, mais j'imagine quand même qu'il y a 200 ans, il y en a 2-3 qui ont dû se dire à quoi ça sert un arc de béton de 50 mètres de haut. Parce que si c'est pour recouvrir la flamme du soldat inconnu, ça fait quand même très cher la pergola pour protéger le barbecue. Tu vois, donc là, Christo a emballé cette arche, et tout le monde y va de son petit commentaire. C'est morche, 14 millions d'euros, même si c'est pas de l'argent public, peut s'acheter de l'argent par les fenêtres. Ce qui me fait penser à cette question, est-ce qu'on est obligé d'avoir un avis sur tout? Un avis. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un avis sur tout et surtout de le donner? Tu me demandes ce que je pense de l'œuvre de Christo, mais c'est comme la saison 38 de L'Amour est dans le Pré, ou ce qu'on appelle un pain au chocolat, une chocolatine. Je m'en fous. Vous imaginez même pas comment. Donc pas la peine de donner son avis et surtout pas besoin de prendre l'avis des gens aussi. Beaucoup trop de micro-trottoirs, de réactions, de témoignages sur cette œuvre et surtout en général. Je veux dire, l'art est subjectif. De toute façon, on tend le micro aux gens que quand il y a une connerie à dire. Je veux dire, on fait jamais des micro-trottoirs pour la question de pour ou contre noyer son enfant quand il vous saoule. Non, on sait tous que c'est pour. Donc sérieusement. Qui mettent des rideaux sur l'Arc de Triomphe, un bonnet sur la Tour Eiffel, des tapis à la Concorde. Mais c'est le propre de l'art moderne, c'est de choquer, de surprendre. La Tour Eiffel, tout le monde était indigné à sa construction. C'est aujourd'hui, c'est notre plus beau symbole. Beaubourg, hier, décrié, aujourd'hui, c'est une institution. À côté du Grand Palais, l'œuvre de Jeff Koons, là, le bouquet d'Anus, tout le monde s'y est habitué. Le pire pour l'art moderne, ça serait que tous les gens trouvent ça formidable tout de suite. Voilà. Et d'ailleurs, c'est très bien que l'art soit un peu mystérieux et qu'on sache pas toujours ce que ça représente. À côté de ça, il y a eu l'inauguration de la statue de Johnny. Et là, on voit très bien ce que ça représente. Un manche de guitare de 5 mètres de haut et dessus, ils ont mis une Harley Davidson. Et encore, on a eu de la chance, ils auraient pu mettre une bouteille de whisky, mais c'est vrai que, je veux dire, quand... On sait pas si c'est de l'art ou si c'est des débris après la décrue d'une inondation, je veux dire. Donc merci à l'art de nous faire parler pour ne rien dire d'intéressant. Si vous voulez aller voir l'Arc de Triomphe, vous allez la trouver facilement. Pour l'œuvre de Johnny, c'est à côté de Bercy. Je comprends la symbolique de la salle de spectacle, mais lui qui a eu des petits soucis avec le fisc, c'est juste à côté du ministère des Finances. C'était peut-être pas si malin.
C'est entre les deux. Merci, bravo, toi.
Et Tom, ce week-end, on se retrouve sur scène aux alentours de Nice. Oui. Ça sera le Broc, la Gaude et Tourette-sur-Loup.
On continuera de parler de Jacques et son maître avec Nicolas Briançon dans la deuxième partie où il y aura, bonjour, Tanguy Pachereau.
Bonjour Nagui.
Tu nous parleras de quoi?
Eh bien, du mammouth laineux qui s'apprête à faire son retour. Le mammouth laineux. Vous voyez, c'est ce petit truc Chewbacca à l'époque d'Alain Duhamel.
Tu peux l'appeler Daniel.
Eh bien, figurez-vous que le mammouth laineux va faire son retour. Une boîte américaine, une société compte le recréer.
La bande originale avec les lacs de Boudadine, Morgane Gerland, Tom Villa, Alexis Le Rossignol, Tanguy Pastureau, Daniel Morin et notre invité Nicolas Briançon.
Maintenant, il a tous les talents, le gars.
À la Symphonie 40 avec Nicolas Briançon. Et beaucoup de musique, oui, sur cette scène de Jacques et le fataliste. Et pardon, Jacques et son maître. Je mélange les deux maintenant. Avec cette musique tzigane, avec ce monde sur scène. Et d'ailleurs, il est important, il est inimaginable de faire la pièce dans une... Bon, pas un huis clos, évidemment, mais qu'avec des évocations, il est important qu'il y ait ces scénettes qui viennent au milieu et d'avoir cette mise en abîme, c'est-à-dire des acteurs qui voient défiler leur vie ou des situations à raconter.
Chaque metteur en scène, et j'espère qu'il y en aura d'autres après moi qui remonteront cette pièce.
Donc c'est votre vision, en tout cas.
Aura sa vision, son parti pris. Et j'ai d'ailleurs beaucoup encouragé, parce que Milan est très, très, très... Donc quand des troupes demandent des droits, moi je leur ai dit laissez la pièce se jouer, même à l'envers, même
c'est ce qu'on a compris avec ce qu'a raconté Ariane Chemin tout à l'heure.
Oui,
il contrôle.
Il a besoin de savoir ce qu'on fait de son œuvre, mais une fois que la confiance est là, alors c'est merveilleux, hein.
Ce qui veut dire qu'un metteur en scène pourrait reprendre votre mise en scène et la jouer sans demander à Milan Kundera, ou ça se fait pas?
Ma mise en scène.
Oui, ce que vous faites.
Ça, demandez à
si
vous.
Si reprenez ma mise en scène, il faudrait éventuellement qu'il me demande.
C'est vrai? Non, mais ça voudrait rien dire. Il y a un droit d'auteur de mise en scène?
Alors, officiellement, les metteurs en scène, en France, sont considérés comme des auteurs.
D'accord.
Et d'ailleurs, ils émargent à la SACD
pour
leur droit de mise en scène.
Voilà. Très bien, d'accord. Donc c'est entre guillemets protégé. Donc personne ne peut jouer Jacques et son maître sans demander autorisation à Kundera?
Ah non. Ça, l'œuvre, on peut pas la jouer sans que l'auteur. Mais ça, c'est valable pour n'importe quel auteur vivant, ou pour des auteurs ayant encore des droits sur les œuvres, tant que l'œuvre
n'est
pas passée dans le domaine public.
D'accord.
Ça a été le cas pour Guitry jusqu'à il y a très peu de temps. Il a basculé dans le domaine public il y a très peu de temps, mais il fallait encore passer par des intermédiaires pour avoir le droit de jouer. Oui, bien sûr.
Alexis,
est-ce que quand on met en scène une œuvre, on s'interdit ou on évite d'aller voir ce qui s'est fait avant? Pour ne pas être trop influencé.
Moi, je m'interdis rien. J'avais
ça, de façon. Vrai. Il s'interdit rien. Ça...
De façon très précise. Non, mais je vais dire non. Alors, il faut pas aller voir les autres avant parce qu'on va le faire soi. Ou je vais pas voir tel acteur dans tel rôle parce que je vais le jouer. Non, moi, j'ai pas ça. Si je sens que j'ai envie, au contraire, que ça va m'aider, que ça peut ouvrir un peu mon imaginaire à d'autres choses, je vais le faire. Il y a eu peu de versions, hein, en France. Il y a eu cette première version que j'avais vue plusieurs fois avec Jean-Michel Dupuis et Gérard Caillot. Mais alors, là, vraiment, on peut dire que le spectacle n'a rien à voir, la mise en scène n'a rien à voir avec ce qui se faisait à la création. Et je verrai avec beaucoup de curiosité et de passion et d'envie des regards différents portés sur cette œuvre, parce que je l'adore et que ça m'éclairera et que moi j'adore entendre un texte différemment.
Ouais, vous n'avez pas plutôt le sentiment que maintenant c'est votre chose?
J'ai parfois un sentiment auquel il faut que je fasse attention, et dont il faut se défendre, qu'effectivement, il y a quelque chose qui m'appartient dans ce truc-là. Mais ça n'est pas le cas.
Il y a de l'affection.
C'est de l'intime. Intime. Je serais heureux de c'est une œuvre qui aura accompagné toute ma vie, donc c'est important. Et puis ça permet le fait de la remonter comme ça. Vous savez, c'est rare dans ce métier où on passe tout le temps d'un groupe à l'autre, d'une troupe à l'autre, d'une équipe à une autre, d'une œuvre à une autre. On passe notre temps à abandonner, à laisser derrière soi, puis à faire d'autres choses, ce qui est à la fois notre nature et sans doute très agréable. Mais en même temps, avoir une œuvre qui revient vous visiter tous les 10 ans, ça vous permet de l'approfondir, ça vous permet de travailler autour. Jamais content d'un spectacle qu'on fait complètement content, donc ça permet d'essayer d'aller un peu plus loin, de l'entendre différemment au fur et à mesure que le temps passe, et c'est très précieux d'avoir une œuvre avec laquelle on peut s'étalonner comme ça toute sa vie.
Comme un rendez-vous avec un bon ami.
Oui, pour voir Qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans, en soi déjà? Qu'est-ce qui s'est passé depuis
et
la dernière fois que j'ai
noté? Elle trouve réellement un écho dans l'actualité, dans l'état du monde, dans les rapports sociaux aussi, dans tout ce qui est dit sur la fatalité, sur la destinée, sur cet écrit?
Oui, oui, moi je crois qu'elle est très importante, ce texte est très important, et celui de Diderot et celui de Kundera, et en même temps, c'est joyeux. Et en même temps, encore une fois, c'est une intelligence qui je déteste les gens intelligents, il y en a, mais qui se réfugient dans un langage que moi j'appelle un langage de cuistre, pour employer des vieux mots, c'est-à-dire une opacité. Voilà. Je crois que les vraies grandes intelligences sont limpides. Je pense qu'elles font l'effort de vous tendre la main. Et je crois que les très grands esprits, on les comprend toujours.
Ouais. Ouais. Jacques et son maître au théâtre du Montparnasse. Voici une intelligence, celle de Tanguy Pastureau.
Oui, pardon. Ouais. C'est un lancement.
Je fais partie de ceux qui pensent que c'était mieux avant. Là, par exemple, tout à l'heure, à 9h30, je prenais un café. Ben, j'étais mieux que maintenant. Là, j'ai pas de café. Tous, on est nostalgiques, à part Jean-Pierre Elkabbach qui allait venir devant lui. On rêve d'un avant sublimé, des 4L qu'on conduisait à fond en fumant des clopes, sans ceinture. On clamsait la tête dans un platane. C'était les débuts de l'écologie. Mais on était bien. Moi, j'aurais adoré vivre dans les années 60, le festival de Woodstock, faire frotti frotta à 25 dans une prairie. Ce que serait l'amour et dans le pré si M6 avait bien voulu se lâcher un peu. Je veux dire, c'est le problème avec Karine Le Marchand, elle est coincée. Parfois, elle est dans la Drôme, à l'orée d'un bois, seule avec un solide gaillard qui lui dit que depuis 12 ans, il fait l'amour qu'il y a des trous de musaraigne. Et au lieu de hurler, bébé, on en parle de ta binette en lui sautant dessus, elle écrase sa larme et dit, ah oui, ça doit pas être facile. Bah, ouais. Moi, j'aurais aimé voir Johnny Mitchell sur scène ou Crosby, Stills, Nash & Young, à qui j'aurais crié, les gars, un conseil, si vous en prenez 3 de plus, prenez un nom de groupe, parce que là, ça devient long à dire votre truc. Avant, c'est toujours mieux. Je suis sûr qu'à l'âge du fer, les mecs se disaient, ah, c'est plus comme à l'âge du bronze. Et prenez Johnny, Tom en parlait tout à l'heure, c'était mieux quand il était vivant. Sa moto, elle était entre ses cuisses, pas perchée à 14 mètres de haut devant Bercy, soi-disant pour faire une œuvre, pardon, mais enfin, sur l'échelle de la beauté, qui va de 1 à 12, on est à moins 40, juste derrière la météo de la Pologne. À Bercy, mais tout est laid, la salle de concert, c'est moche, un parallélépipède sur lequel ils ont foutu du gazon. Pour le tondre, les mecs sont obligés de descendre en rappel avec la débroussailleuse une fois sur deux par mégarde, ils coupent la corde, il y a déjà eu 3000 morts. Hein, la statue pour Johnny, c'est moche, je pense qu'il se retourne tellement dans sa tombe qu'il va faire Saint-Barth-Paris en position hélicoptère. Le ministère des Finances, c'est moche, un rectangle qui trempe dans la flotte, on dirait un sucre géant, avec à l'intérieur Bruno Le Maire, qui du coup n'a aucune pression, hein. Lui il peut descendre en claquette avec un pantacourt et un t-shirt sur lequel a vomi déficit public son chat, hein, comparé au quartier, ce sera Cyril Ferraud à la sortie du fitness. Oui, on rêve tous de se projeter dans le monde d'avant, mais c'est impossible. Alors on regarde en photo des vieilles photos de nous, avec toujours une tante qui dit « Oh, comme t'étais mignon !» avec l'air de dire « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Il y a un bus qui est venu te taper de manière frontale, tu es allé voir le monsieur qui a fait Nicole Kidman, Alors, ok, on peut pas revenir en arrière, mais par contre, la science va ramener le passé à nous. Tenez, tout le monde voit ce qu'est un mammouth laineux. Hein, oui. C'était une sorte de gros éléphant looké comme Francis Lalanne. Bon, il a disparu il y a longtemps, comme Benoît Hamon ou les Pins. Eh ben, lundi, une société américaine qui s'appelle Colossal, ce qui en français signifie colossal, a annoncé qu'elle allait tenter de faire revivre le mammouth laineux, cet animal pugnace qui dégage la bonhomie de Martine Aubry si elle avait renoncé à toute idée de soin du visage. Alors, en fait, j'explique, en Sibérie, à cause du réchauffement, là, il fait 34 degrés, on organise des Spring Break et une grosse communauté caribéenne, hein, qui cherchait un coin qui ressemble à la Casa niveau climat. Et donc, tout fond. Si bien qu'on découvre sous la glace des trucs qui végétaient depuis des millénaires. On a déjà trouvé 12 enfants cachés du prince Albert, la joie d'Arlette Chabot et les règles du curling. Mais aussi des mammouths congelés. Parce qu'en Sibérie, il y a 5000 ans, un habitant sur deux était un mammouth. Hein, et avec la neige, on voyait rien. Donc, on entendait des pas, on disait maman. Et là, un mammouth répondait pas du tout. Donc, ta gueule. Et vous défoncez à coups de trompe. Hein, Rocco Siffredi dans ses films a plus tard cherché à reproduire en mime. Non. La violence de ces attaques.
Non.
La Sibérie a toujours été un pays difficile. D'ailleurs, Staline envoyait là-bas mourir ses opposants. Staline, vous voyez, hein, c'est le moustachu qui n'était pas dans les Village People. Hein, il a passé le casting, mais il voulait absolument danser avec une faucille et un marteau. Bon, il blessait les autres membres du groupe. En 3 jours, il n'y en avait plus un qui avait un bras. Donc, faire YMCA sans les mains,
ça
c'est compliqué.
Ouais.
Hein, il est par conséquent devenu dictateur. Dictateur, c'est souvent un second choix. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas de BTS. Donc la société colossale a récupéré de l'ADN d'un mammouth laineux qu'on a comparé à
celui de Xavier Dupont de Ligonnès, hein, pour voir si c'était pas lui déguisé en mammouth, parce que quand même, il faudra bien qu'il soit quelque part. Elle va le coller dans un génome d'éléphant d'Asie pour créer une espèce hybride. Car le saviez-vous, le mammouth laineux et l'éléphant d'Asie ont un ADN similaire à 99,6%. Non. C'est énorme, 99,6%. Dans Marié au premier regard, quand un gars et une fille sont compatibles à 80%, la prod achète déjà des capotes. Donc 99,6, c'est beaucoup. C'est le taux de Français qui pensent ne pas voter pour Lutte ouvrière en 2022. Une fois le mammouth laineux recréé, ils vont le réintroduire en Sibérie, dans la toundra, un type de végétation qui ressemble à un immense pubis bien taillé. C'est-à-dire qu'on va être à la fois dans l'hypermodernité, quoi, les drones, Thomas Pesquet au milieu des étoiles, et dans la préhistoire, le retour des mammouths laineux. Enfin, ça va être une ère où l'homme de Cro-Magnon, qu'on va recréer en foutant son ADN dans le génome de Moundir l'aventurier, fera des tutos maniement de la massue sur TikTok. Alors, ce projet est à la fois ouf, comme dirait Régine, parce que après le mammouth, on va peut-être faire revenir à la vie le dodo, le militant socialiste, ceux qui se plaignent des pigeons dans les villes, accrochez-vous, parce que d'ici 2 ans, ce seront des ptérodactyles qui feront leurs besoins sur vous. Et ça bouffe 40 lapins par jour, un ptéro. Donc une fiente et vous êtes mort. Oui, c'est ouf et à la fois dangereux. Parce que si on a l'impression qu'on peut recréer demain n'importe quelle bestiole, on peut toutes les exterminer maintenant, sans culpabilité. Alors protégeons les espèces existantes. Je veux dire, qui a besoin de mammouth laineux quand on est déjà Francis Lalanne?
Merci, bravo.
Tanguy, on se retrouve ce samedi en spectacle à Tours, également.
Et au Folies Bergère ou pas?
Évidemment, ils seront au Folies Bergère. Les meilleurs sont au Folies Bergère.
On avait perdu Daniel.
Mais ça allait de soi. Il y en a combien?
On attend vous.
54.
Vous attendez vous, Daniel? Il y a trop de gens brillants et intelligents pour que je vienne. Mais il y en a combien?
Dans le public,
11.
11. D'accord, mais ils sont tous là. C'est fou. Retour à Jacques et son maître de Milan Kundera. C'est au théâtre du Montparnasse avec ce plaisir de retrouver cette pièce que vous portez en vous depuis que vous aimez le théâtre et que vous l'avez mise en scène. Retour avec le plaisir aussi de rentrer dans une salle de théâtre, de fouler les planches, l'odeur, l'ambiance, tout ça. Ça a dû être incroyable. Vous vous souvenez du premier jour, vous êtes retourné au théâtre après.
On a d'abord répété dans un théâtre vide. C'était une première étape et c'était important. Et puis après, il y a eu la première en public et c'était très fort. C'était très, très émouvant. Voilà, très émouvant.
Et on n'a pas dit que Stéphane Hillel était un super partenaire.
Ah non, mais ouais. il faut parler de tout le monde. Ouais. Je suis seul à parler de la pièce. Oui, vous les avez cités. Merci. Et merci pour eux. Mais il y a une troupe géniale, quoi, avec des gens qui sont tellement à fond dans ce spectacle, dans ce qu'ils font, quelquefois avec des apparitions courtes, mais dans lesquelles ils sont totalement investis. Et puis, il y a mon maître, qui est Stéphane Hillel, qui est absolument merveilleux, qui est de soir en soir de plus en plus merveilleux d'ailleurs, et que je regarde de temps en temps jouer comme ça avec beaucoup de bonheur, parce que je suis content qu'il ait retrouvé l'envie de jouer. Puisqu'il a.
C'est un metteur en scène aussi.
C'est un grand metteur en scène, et pendant presque 20 ans, il a dirigé le théâtre de Paris.
Et vous êtes content parce qu'il progresse.
On progresse tous les soirs quand on fait ce métier. Et c'est ça qui est chouette.
D'autres événements dans le monde de la culture, Leïla Kadobodedi.
On va parler de Gorillaz, Nicki Minaj ou encore de Stevie Wonder. Je parle du casting d'un disque, mais de quel disque?
C'est pas celui de Diana Ross?
Non.
Redis qui?
Nicki Minaj, Gorillaz, Stevie Wonder.
Truc caritatif?
Non, ils vont faire partie d'un album d'un monstre qui a plus de 60 ans de carrière.
Dylan?
Qui a vendu plus de 300 millions de disques.
Elton
qui a
John,
raflé Elton John, bien vu, Daniel, absolument. Un petit extrait.
On replace
Sir Elton John. Dans ce prochain album, il va aligner mais les stars, vraiment.
Un album où la pochette est un masque d'antivirus avec des paillettes.
Le nom de l'album, c'est The Lockdown Session. Ça doit sortir le 22 octobre avec le casting que j'ai évoqué, mais il y aura aussi d'autres artistes comme Miley Cyrus qui vont se côtoyer sur ce nouvel album. Et il s'est dit, j'avais dit que j'arrêtais de faire de la musique.
Qui va dire non? T'as Elton John qui t'appelle? Non. Quel jour tu dis? Mardi, je peux pas.
Et c'est simplement
je suis au Folies Bergère, je peux pas.
Il s'est simplement dit, je vais prendre ma retraite. Et puis finalement, avec ce qui s'est passé, avec le Covid, avec toute cette interruption, il a eu envie de s'y remettre et de se mettre
aussi, en France,
hors de sa zone de confort. Kundera,
il vit dans le sud de la France, dans l'arrière-pays de Nice, je crois, par là.
C'est un casting rêve, Nicolas Briançon, pour cet album d'Elton John. Vous, si vous deviez faire un casting de rêve? Avec, avec des gens qui ne sont plus là, ça sera plus simple, ça vous évitera de vexer.
De me fâcher.
Ouais.
Avec des acteurs.
Et oui, des comédiens et des comédiennes.
Mon casting de rêve, il y aurait Charles Denner, dont on a fêté l'anniversaire de la mort il n'y a pas très longtemps, qui est un acteur. Je vais vous citer des noms qui sont. Qui, on va pas dire Belmondo et les autres, mais Charles Denner que j'adorais. J'adore, alors évidemment, au moment où vous me demandez ça, le nom de. Dalio. Vous voyez, Dalio dans.
Et Jean Le Poulain, vous l'avez évoqué tout à l'heure.
Ah Jean Le Poulain était un immense acteur, mais c'était bon.
Il n'a pas laissé que des bons souvenirs.
Si, il fallait un petit peu quand même se promener avec son slip en zinc dans les couloirs du Français, mais c'était.
D'accord.
C'était pas. Ici aussi, vous savez. Hein.
Hashtag MeToo. Ok, d'accord.
Bah oui.
Magie du spectacle avec ce samedi à 20h40 demain donc. Vie artiste, la nouvelle, entre guillemets, version mécanique, ils ont été 19 à être sélectionnés par vos votes samedi dernier. Les 10 premiers passeront demain soir avec leur propre chanson, les 9 autres samedi prochain.
Visite médicale.
Et d'une manière extrêmement simple, pardon.
Visite médicale ou pas?
Non, pas visite médicale. D'une manière extrêmement simple, vous pourrez voter gratuitement sur les 10 chansons interprétées et chansons originales par ces artistes. Et les 7 premiers resteront dans l'histoire. Les 3 suivants, malheureusement, quitteront l'histoire. Et pour l'instant, ils assistent au masterclass avec Leïla Kaddour Boudali.
Tous les jours à 20h
sur Culture Box à 20h.
Absolument. On permet à ces artistes de rencontrer des mentors. Et ce soir, ils vont rencontrer Féfé, c'est Sayan Soupakrou, mais c'est aussi des albums solo. Et puis, c'est une bête de scène, Féfé. Donc, on s'est dit, en cette veille de prime, tant qu'à faire, autant discuter avec un mec expérimenté comme lui et hyper généreux. Et on lui a demandé, notamment, comment il se présentait sur scène. C'était quoi sa façon à lui d'être sur scène?
Moi, je donne moi, tout simplement. Dans la vie de tous les jours, je rase les murs. Je suis pas vraiment, voilà, mais sur scène, laisse tomber. C'est comme si je sortais le vrai Féfé, quoi, tu vois. Je donne tout ce que je suis, je donne le meilleur surtout, la meilleure partie possible, quoi. Et j'essaye toujours vraiment d'être généreux, d'être vrai, en fait. Voilà, le public, quand je sens par exemple le public, il est pas chaud, je leur dis, c'est nul. Mais je le dis avec tellement de sincérité que ça passe.
Ouais.
Voilà, je le dis pas en énervé ou quoi que ce soit.
Oui, Féfé, il a cette approche-là, c'est dans cette envie de communion, en fait, avec le public. Et justement, il nous l'explique encore un peu plus.
Un moment sur scène, ce que j'aime, c'est avoir cette impression qu'à un moment, on fait un. Voilà. Mmh. Qu'à un moment, grand, petit, meuf, mec, on s'en fout. Mmh. Et à un moment, quand t'arrives à vraiment prendre le public, il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus, je suis l'artiste, vous êtes dessus, c'est genre, en tout cas, dans mes concerts, il y a une impression genre, c'est la MIFA, on est ensemble, tu vois ce que je veux dire? Bon, là, on n'est pas terrible, mais c'est pas grave, ouais. Ça, on va faire mieux après. Et j'essaie d'avoir ce truc-là.
Et il a donné même une démonstration. Il s'est dit, tant qu'à venir, il est hyper chouette.
Il ambiance d'une manière incroyable.
C'est un ancien MC.
Évidemment, artiste, musicien complet, mais aussi, il pense à la scène.
Ouais. Et donc, il a pris sa guitare pour Dans ma rue.
Lever une main en l'air. Lever l'autre main en l'air.
Très pédago.
Et on va taper dans les mains ensemble. Super. J'aurais besoin que tout le monde ait le rythme. Va falloir regarder pendant une minute, donc vous êtes déjà en galère. Et il faudra aussi chanter. Ouais, 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 ouais.
Ouais, 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 ouais.
C'est pas mal. Allez, c'est parti. T'es en galère.
C'était un super moment passé avec lui, et puis Féfé, il les a complètement renversés, juste avec un titre.
Oui, et en complicité d'ailleurs, il va, donc ce soir, il y a Masterclass avec Leïla, 20h sur le canal 14 de la TNT Culture Box, et il va revenir pour danser le Mia avec deux, trois jeunes artistes comme ça, juste pour le plaisir de venir. Ça, c'est hors compétition, comme on dit, puisque, je le rappelle, les votes, pour simplifier, que ce soit très clair, je le répète, les votes uniquement sur les créations originales, auteurs, compositeurs, interprètes. 10 des 19 cette semaine, les 9 autres la semaine prochaine, et c'est sur France 2. Jacques et son maître au Théâtre du Montparnasse avec Nicolas Briançon pour la mise en scène et le jeu avec Stéphane Hilel, également sur scène Lisa Martineau, Pierre Alain, Leleu, Camille Favrebul, Maxime Lombard, Philippe Bottier, Elena Terenteva, Jana Bitnerova et nos amis Tigane pour la musique, je pense à Marek et Boban. Et puis également le metteur en scène a des pièces qui partent en tournée, notamment 10 ans après de David Fuenquinos avec Mélanie Page, Bruno Solo, Julien Boisson. Ça commence à Saint-Maur le 30 septembre, puis Beaupro, Caudry, Saint-Étienne, Roubaix, Biarritz, Mérignac, Franconville, Aix-les-Bains, puis Envelay, Marseille, Salon de Provence, Carpentras. Quand on a une pièce comme ça qui part en tournée, qu'on est metteur en scène, qu'on l'a mise en scène au Théâtre de Paris, comment on fait pour l'adapter entre guillemets de salle en salle? On laisse faire, on envoie quelqu'un?
D'abord on refait le spectacle dans un théâtre généralement qui est à proximité de Paris avant le départ de la tournée.
D'accord.
Donc là, on imagine toutes les configurations qu'il va pouvoir y avoir dans les salles qu'on va
de changement rencontrer. De décor, de taille et
oui,
de déplacement.
De taille, comment on va pendrillonner le théâtre ou pas, etc. Et puis à partir de là, les équipes techniques font leur boulot, elles adaptent tous les soirs en fonction.
Et vous avez, à propos de tournage, vous jouez en ce moment, je ne sais pas, dans le nouveau film de Nicolas Bedos.
Oui, c'est ça y est, encore en tournage, le film est terminé.
Non, d'accord.
Ça vient de se terminer, c'était un très long tournage, et très passionnant tournage, et très chouette tournage, avec des acteurs haut en couleur.
Et vous faites
Adjani,
quel personnage?
Je fais un metteur en scène de théâtre qui se tape des jeunes femmes,
c'est un documentaire.
Non mais qui s'adapte de façon un peu sale, un peu.
Oui, ouais.
Pas un mec très sympathique.
La vie quoi.
Rôle de composition. Donc et puis peut-être dans la deuxième saison de l'école de la vie aussi. Vous êtes.
Il faut que je parle avec la production.
Un professeur.
Ah c'est un connard. Faites gaffe.
Problème caché alors. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien sûr, déjà désolé pour Mozart qui avait oublié qu'il avait été humilié, souillé, tambouriné, gangbangé par les compagnons de la chanson.
Autant de pyro et dans un monde.
Voilà, depuis ce matin, Mozart a replongé dans la déprime. Il va passer un sale week-end. Désolé, Wolf. Désolé pour toute la troupe des années Twist qui a découvert ce matin que Nicolas Briançon, le Twist, il s'encarre, mais tellement, tellement, il a juste fait ce spectacle pour monter Jacques et son maître. Désolé pour Nicolas Briançon. Eh ouais, à chaque visite, il essaye de séduire Morgane Cadignan. À chaque fois, il lui déclare qu'elle ne l'aime pas. Alors que faire? Lui promettre un rôle? Non, il serait gêné. Lui donner de l'argent? Non, ça lui rappelle une époque qu'elle veut oublier.
Bon.
Ne vous emmerdez pas, Nicolas, Hot Dog, et elle est à vous.
C'est pas
et désolé, enfin, pour le monde de l'art en général, j'allais oublier, mais Nicolas Briançon, comme tous les meilleurs, sera bien sûr aux Folies Bergères le 26 septembre à 18h. Tous les meilleurs y seront.
Merci Nicolas Briançon, Jacques et son maître au Théâtre du Montparnasse. Bravo. Et lundi, on se retrouve avec Laurence Arnay, Guillaume de Tonquédec dans la bande originale. Tout de suite, les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Ce soir, Masterclass, Leïla, The Artist sur le canal 14 et demain sur France 2.
Bon week-end.
Merci.